6h46 sur France Culture, pile. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bien joué.
Alors aux enjeux, au programme des enjeux aujourd'hui, le sommet Inde pays nordique qui se tient en Suède, aujourd'hui même, en présence de Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, là, il s'agit de coopération entre gros organismes avec ce sommet indo-nordique historique pour l'Inde. Le Premier ministre Modi rencontre à partir d'aujourd'hui ses homologues de 5 pays du nord de l'Europe et vient y mettre en œuvre sa diplomatie économique, voire la sublimer, sans mauvais jeu de mots. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Vous êtes économiste, conseiller au club du CEPI, spécialiste évidemment des pays émergents, Inde-Chine, et l'auteur de Chine d'Afrique, ce fameux livre sur la Chine et l'Inde en Afrique. Alors il y a 30 ans, le Premier ministre Rajiv Gandhi au sommet des 6 nations était critiqué pour son manque de communication. Cette fois, les objectifs du gouvernement indien sont très clairement énoncés, voire rabâchés dans la presse indienne. Intensifier les relations à travers des partenariats économiques bien ciblés avec ces 5 pays, les villes intelligentes, les énergies renouvelables, le commerce et l'investissement, sans oublier bien sûr les SAB suédois. Pragmatisme donc et innovation technologique pour l'Inde, ce que vous appelez ce troisième terrain de manœuvre dans Chine d'Afrique. Inde qui sera la 5e économie mondiale cette année et dont la stratégie originale de co-innovation qu'on pourrait appeler douce contraste avec celle perçue comme plutôt prédatrice de la Chine. Ce mouvement confirme en tout cas une intensification des relations avec l'Europe, si on voit la visite d'Emmanuel Macron. Pourquoi avoir alors attendu 30 ans pour venir, demande la presse indienne. On demandera, après avoir sécurisé ses approvisionnements en Afrique, l'Inde de la 4e révolution industrielle et aux 10 licornes passe-t-elle aussi à un autre modèle et peut-elle espérer une plus-value politique? En tout cas, Jean-Joseph Boileau, ce qu'on voit bien là en Europe et peut-être pour la première fois, c'est une méthode indienne à l'épreuve, c'est un peu ça?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas, vous savez, en Inde, de petites choses, il n'y a que des choses significatives, et dans ce domaine-là, les pays nordiques sont petits parce qu'ils ne représentent que moins de 1% des échanges commerciaux, par exemple, de l'Inde. Mais il n'y a pas un Indien qui ne connaisse les pays nordiques sur des points finalement très importants. C'est Ikea, on en parle partout, mais c'est surtout Nokia. Nokia est celui qui a apporté la révolution technologique majeure en Inde. Ce sont les téléphones mobiles. Sans doute qu'aujourd'hui les smartphones chinois remplacent Nokia, mais il y a encore des millions de petits Nokia dans les campagnes. Et puis enfin, c'est le scandale Bofors des armements suédois qui ont été à l'origine de la démission finalement de Rajiv Gandhi il y a quelques années, mais dont la traînée de poudre continue de se faire sentir puisque c'est la question de la corruption autour des marchés d'armement. Donc l'Inde connaît bien les pays nordiques et les pays nordiques s'intéressent de plus en plus à l'Inde.
Et alors vous avez parlé des armements suédois, il y a cette question des 200 à 250 chasseurs SAB qui vont être achetés par l'Inde à la Suède avec justement grosse cession et transfert de technologie, la plus grosse usine d'armement au monde, je crois, avait dit le Suédois Saab à l'époque. Dans ces 5 pays, justement, la Suède, c'est le partenaire qui apparaît essentiel finalement. Est-ce que les autres sont pas un peu accessoires, disons-le comme ça?
En ce qui concerne le commerce, non. Vous avez, bon, la Suède fait à peu près 0,4-0,5% des échanges totaux de l'Inde, mais le Danemark fait 0,2%, la Finlande, dont on vient de parler à propos de Nokia, fait 0,2%. Donc c'est assez équilibré, même si effectivement la Suède, dans le domaine des armements, est le grand partenaire. Et j'ai parlé du scandale Beaufort dans les années 80, donc vous voyez, ça n'est pas d'hier.
Oui, et alors je parlais de méthode indienne à l'épreuve, il y a quelque chose d'assez frappant quand même, ça apparaît dans la presse et dans les communiqués du gouvernement, c'est la manière dont Narendra Modi a fait un peu ses listes de courses, on pourrait dire, dans ces pays-là. Par exemple, par pays, c'est cité par le Times of India, l'Islande et l'énergie thermale, le Danemark et l'énergie éolienne, la Suède et les réseaux intelligents, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant ça.
Oui, parce que on a une relation asymétrique sur le fond entre un pays continent, l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, qui a besoin de tout pour se développer, et puis le fait que quand on regarde la répartition géographique du commerce indien, finalement l'Inde échange avec tout le monde. Tout le monde, ce sont des tout petits volumes. Vous voyez, on a parlé à propos du Danemark, par exemple, à peine 0,1-0,2% des échanges totaux de l'Inde, mais c'est toujours extrêmement ciblé. Alors c'est une technique qui vise, dans la diplomatie plus largement que économique, à rassurer l'Inde sur sa capacité d'être autonome, d'être indépendante, ce qu'on appelle depuis l'indépendance la self-reliance. Et une des bonnes façons d'être relativement indépendant, c'est de ne dépendre de personne. Et donc, il n'y a aucun pays sur la carte géographique des échanges de l'Inde qui compte plus que 1,5-2%. La Chine, en ce moment, est en train de prendre un poids relativement important, et donc l'impératif pour l'Inde, c'est justement de se désenclaver de ce type de dépendance. Sur le plan des armements, vous savez que l'Inde est le premier importateur mondial d'armement, la Russie joue un rôle considérable, mais au total, pas plus que 15% des échanges. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi Israël, qui est devenu numéro 2, il y a la France, et les pays nordiques, pour l'Inde, représentent un atout majeur, puisque ce sont des tout petits pays, et dès lors qu'ils sont sur le commerce des armements, ils laissent à l'Inde une assez grande souplesse. Vous voyez bien que dans le cadre de la Suède, les 250 chasseurs sabres représentent évidemment un élément central du futur de l'industrie d'armement suédoise.
Et avec effectivement ce transfert technologique tout à fait inédit aussi. Sur un autre plan non militaire mais très concret, on vous suit en parlant de ces petits pas et gros effets, qu'est-ce que pour attendre l'Inde de certains transferts de technologie, par exemple ce qu'ils appellent le clean water, la dépollution de l'eau, sachant qu'il y a des problèmes, ça a été cité par l'ambassadrice indienne en Suède, sachant qu'il y a des gros problèmes avec la dépollution du Gange en ce moment. Est-ce que c'est un des chantiers sur lesquels on peut attendre des effets à très court terme ?
Je n'ai pas le sentiment que c'est dans ce domaine-là que la coopération avec les pays nordiques est la plus importante. Je pense que c'est tout autour plutôt autour de la mobilité électrique. Je note que c'est hier précisément que l'on a annoncé que Ola, qui est la société de transport comparable à Uber, si vous voulez, avec SoftBank, s'est fixé comme objectif d'avoir 1 million de véhicules électriques sur les routes indiennes d'ici 2021. Et dans ce domaine-là, la Norvège est particulièrement à l'offensive parce que la Norvège est un des leaders mondiaux de la du stockage, si vous voulez, de l'industrie électrique. Et la Finlande est également extrêmement avancée sur le contrôle de non seulement la production, mais du stockage de l'industrie électrique. Donc je pense que c'est dans ce domaine-là qu'il y a il va y avoir pas mal de contrats signés. Mais vous avez raison, dans ce qui est la dépollution, la presse indienne s'est fait l'écho de cette visite en montrant deux aspects extrêmement importants pour l'un de ces pays. C'est la capacité d'être à la fois une démocratie et d'avoir un état-providence et une économie de marché. Donc c'est l'idée de finalement paradoxal pour Modi, hein, de modèle social-démocrate qui serait applicable à l'Inde. Et puis le deuxième élément, c'est que ce sont les pays qui sont sur le plan des institutions économiques parmi les plus avancés, et l'Inde va chercher des modèles, ce qu'on appelle, hein, des modèles économiques qui vont lui permettre de connaître une croissance propre.
Et en tout cas pour l'électrique, la visite d'ailleurs au sommet du Commonwealth de Modi demain vous démentira pas, puisque c'est un moteur électrique Tata dans lequel le prince Charles en Jaguar sera conduit. Dernière question un peu brièvement, mais qu'est-ce qui reste justement de cette Chindiafrique et surtout de cette Indiafrique, je le disais dans ce contexte, pourquoi ? Parce que trois sommets en 2008, 2011, 2015 et puis on a l'impression un peu plus rien alors que le continent est très très courtisé, hein, on le sait en ce moment.
Alors c'est sans doute la méthode des sommets qui n'a pas vraiment marché dans le cas de l'Inde, et ça ne m'étonne pas parce que l'essentiel de la présence indienne en Afrique passe par ces grandes sociétés privées. Vous avez cité Tata. Tata est partout en Afrique. Ce sont des motos, par exemple, de TVS. Donc, dans le cas chinois, on comprend que ce grand sommet bilatéraux soit essentiel parce que 80 milliards ont été mis sur la table, par exemple, par l'État chinois. C'est pas du tout le cas de l'Inde qui n'a assez peu de ressources finalement à mettre sur la table. Par contre, Je reviens d'Afrique et je dois vous dire que j'étais très surpris de ce que l'Inde continue son offensive. Et l'annonce il y a quelques jours de l'ouverture de 18 nouvelles ambassades en Afrique montre, à mon sens, cette concurrence entre la Chine et l'Inde sur le territoire africain est en pleine vigueur, sachant qu'il y a une demande des pays africains, c'est très très net, pour justement rééquilibrer la présence chinoise qui est appréciée, mais en même temps qui est jugée aujourd'hui relativement lourde.
Eh bien, à suivre en tout cas, ça porterait le nombre d'ambassades au total 49 en Afrique. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Jean-Joseph Boileau, économiste conseiller au club du CEPI. Je renvoie à votre livre « Chine d'Afrique ».